Ben voilà, comme d'habitude et comme pour tous les colloques, nous ne sommes pas en avance. On va donc terminer en revenant à de la musicologie pure et dure cette fois-ci, puisque on accueille Olivier Migliore et qui a déposé très très récemment une thèse à l'université de Montpellier sur la prosodie dans le rap et dans le reggae, et en travaillant avec des programmes qui ont été constitués par l'IRCAM, on a une approche qui est vraiment très très rigoureuse, très très scientifique de la manière dont les textes sont délivrés, et donc je me réjouis de l'entendre sur l'application de ces théories dans le domaine du punk.
Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je souhaitais dire que je suis très heureux d'être ici dans ce magnifique lieu. Donc, je remercie le PIN et particulièrement Solveig et Luc de m'avoir invité à présenter mes travaux ici. Voilà, donc je travaille personnellement sur la prosodie musicale, sur l'analyse de la prosodie musicale, du punk et d'autres styles, comme l'a dit Christophe. Et je commencerai par rappeler donc ce qu'est la prosodie musicale, parce que peut-être tout le monde n'est pas familier avec ça. Alors, la prosodie musicale, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit des règles concernant les rapports de quantité, d'accentuation et d'intensité entre les syllabes des paroles et les temps de la mesure. Autrement dit, comment vous placez votre voix sur le cadre métrique musical. Alors, l'étude de ce paramètre est tout à fait pertinente dans le cadre du punk, puisqu'elle permet d'analyser l'interprétation vocale dans un cadre musical, et ainsi donc de mettre en lumière les attitudes vocales particulières que les punks choisissent de mettre en œuvre. Alors, ces attitudes, elles traduisent des prises de position stylistiques, mais aussi sociales et politique du locuteur que nous pouvons étudier ensuite pour chaque punk, chaque époque et chaque espace géographique. Seulement, l'analyse de ce paramètre pose bien sûr quelques problèmes méthodologiques. Pourquoi ? Eh bien parce que le punk est une musique de tradition phonographique, donc principalement non notée, pas de partition, et il faut ainsi garder à l'esprit que l'analyste n'est pas confronté à l'enregistrement d'une œuvre, mais bien à l'œuvre elle-même lorsqu'il a l'enregistrement. Ainsi, le contenu acoustique de l'enregistrement lui révèle les spécificités de l'exécution de l'œuvre. À cela s'ajoute l'aspect peu chanté du chant dans le punk qui fait que cette musique résiste aux outils traditionnels de la musicologie, autrement dit l'analyse mélodique ou l'analyse harmonique voix-instrument. Ici, nous ne pouvons réaliser ou appliquer ces outils. Ainsi, il y a donc tout un intérêt à développer des méthodes qui permettraient cela. C'est pour ça que, durant ma thèse et en collaboration avec l'IRCAM, comme le disait Christophe, j'ai développé une chaîne de traitement informatique en collaboration avec l'IRCAM qui permet justement d'extraire la prosodie musicale. Donc, que permet l'outil informatique ? D'objectiver le contenu des enregistrements, d'objectiver les données sujettes à l'analyse. Aujourd'hui, je me pencherai sur 5 morceaux, l'analyse de la prosodie musicale de 5 morceaux, dans une période d'étude qui s'étend de 1977 à 1988. Alors, les morceaux ont été choisis pour leur représentativité du style, bien sûr, mais aussi pour leur diversité, et tout le monde reconnaîtra ces titres, à savoir Clé de contact de Métal Urbain, Fier de ne rien faire des Olivenstein, Porcherie de Berrurier Noir, La bière des garçons bouchers et Les athlètes de Ludwig von 88. Alors, aujourd'hui, ma présentation se déroulera en 3 parties. C'est histoire un peu de structurer cette présentation. Je vous présenterai dans un premier temps cette méthode pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Ensuite, grâce à celle-ci, je vous montrerai les résultats obtenus grâce à cette méthode. Et enfin, je présenterai donc les quelques-uns des personnages vocaux mis en scène par les premiers punks français, et je reviendrai bien sûr sur cette notion de personnage vocal, en temps voulu. Donc la méthode. Alors, la première étape de cette méthode, elle consiste à extraire les syllabes des paroles et le cadre métrique musical, donc en gros, les unités rythmiques des systèmes linguistiques et musicaux. Et tout d'abord, donc, j'extrais le cadre métrique. Comment ? À l'aide du dispositif d'analyse IRCAMBIT, développé par l'IRCAM, comme son nom l'indique, et qui permet donc d'estimer de manière automatique, à partir d'enregistrement, le placement des temps, des deuxièmes croches de temps, des mesures et la vitesse des tempi. Alors, voici le résultat obtenu pour un extrait donc de Clé de contact. Donc, comme vous le voyez, le logiciel distingue les premiers temps des autres, ce qui lui permet d'estimer le placement des mesures. Et si on le lui demande, il estime également le placement des deuxièmes croches de temps. Donc, on a encore plus de précision sur le cadre métrique. Une fois cela réalisé pour les 5 morceaux, Il nous reste à extraire la chaîne de parole, autrement dit, ce qui est les syllabes et les silences. Et pour cela, les spécialistes en synthèse vocale réalisent généralement des segmentations syllabiques, mais à l'aide d'algorithmes performants, et ce de manière automatique. Mais la condition sine qua non à l'automatisation de ces opérations réside dans le fait de posséder les fichiers de voix seuls. Fichiers qui sont très difficiles à obtenir puisque les maisons de disques, les ingé-sons et les artistes même opposent systématiquement leur veto pour des questions de droits d'auteur ou simplement parce qu'ils ne possèdent plus ou n'ont pas accès à ces fichiers. Ainsi, il faut réaliser cette opération manuellement et c'est possible à l'aide du logiciel AudioSculpt, là encore développé par l'IRCAM, quel hasard. Alors, c'est une opération qui est extrêmement chronophage, mais aussi très précise, et qui consiste à signaler les débuts et les fins de chaque syllabe à l'aide de marqueurs, puis leur son phonétique en alphabet SAMPA. L'alphabet SAMPA, c'est un alphabet que l'on peut utiliser dans le cadre du traitement informatique. L'API ne fonctionne pas. Et les pauses respiratoires et les silences à l'aide du syndièse. Alors ici, un exemple sur « Fier de ne rien faire » des Olivenstein pour vous montrer comment on procède. Donc, nous signalons le début et les fins de chaque syllabe à l'aide de marqueurs, puis leur son phonétique en alphabet SAMPA, et enfin, nous vérifions la conformité de nos segmentations à l'aide de l'enregistrement. Alors bien sûr, ici, le processus est considérablement accéléré pour la démonstration. En réalité, je vous assure que ça prend énormément de temps. Bon, le cadre métrique et les syllabes révélés de la manière dont je viens de vous montrer, eh bien, nous signalons ensuite les événements qui constituent la prosodie musicale. Et pour cela, eh bien, on ajoute à la suite des labels phonétiques, des labels prosodiques, qui vont d'abord signaler l'accentuation des paroles. Alors, l'accent en français tombe généralement sur la dernière syllabe non caduque d'un mot ou d'un groupe de mots. C'est très discutable selon les écoles linguistiques, mais c'est ce que j'ai retenu. Et on appelle cet accent l'accent tonique, donc deux sortes d'accent tonique. Si jamais il tombe ailleurs que sur une dernière syllabe de phrase ou de mot, on appelle cet accent l'accent d'insistance, puisqu'il est destiné à insister sur une syllabe normalement atone pour des raisons expressives ou sociolinguistiques. Une fois cela réalisé, nous signalons d'autres événements, par exemple des spécificités de prononciation, telles que des ajouts de E caduques, donc des E caduques prononcés, ou des ajouts syllabiques quelconques. Enfin, nous signalons, et c'est très important, le comportement global des syllabes face au cadre métrique musical. Ainsi, chaque syllabe tombant sur un temps est signalée, chaque syllabe tombant sur une deuxième croche de temps est signalée, et chaque syllabe tombant ailleurs est également signalée. Ainsi, nous savons exactement où sont placées les syllabes sur le cadre métrique. À partir de tout cela, on peut créer des représentations qui vont directement servir nos analyses de la prosodie musicale. Alors ces représentations, eh bien, tout d'abord, nous parvenons, grâce à ces données, à mettre en partition la partie rythmique des phrasés vocaux. Comment ? Eh bien, en utilisant le logiciel OpenMusic avec lequel nous quantifions les segmentations syllabiques. Alors qu'est-ce qu'OpenMusic ? C'est un logiciel d'analyse développé par l'IRCAM, là encore, qui permet de connecter visuellement des boîtes représentant des opérateurs mathématiques ou musicaux afin de produire donc, des algorithmes pour la transformation ou la production de structures musicales. Ces boîtes, elles sont convoquées selon les ambitions de son utilisateur, ici donc la quantification, et elles sont réunies dans le patch que vous voyez sur l'écran. Ainsi, nous implémentons en haut à gauche les fichiers de segmentation syllabique, en haut à droite le fichier d'estimation de placement des temps, et nous obtenons en fin de chaîne des fichiers XML que nous pouvons ensuite éditer sur ou travailler sur éditeur de partition. J'ai utilisé pour ma part le logiciel Final, et voici le résultat obtenu pour les premières mesures de la partie vocale de clé de contact. Alors je ne sais pas si on voit bien, ça me semble très blanc, mais ici figure l'écriture syllabique est bien signalée hein, en alphabet phonétique et en français standard, l'accentuation du texte également, et le plus important, les durées syllabiques ont été transformées en durées musicales contenues dans des mesures à quatre temps, puisqu'ici, il s'agit d'une mesure à quatre temps. Donc ces partitions-là, fondées sur la réalité acoustique de l'enregistrement, elles sont d'une grande utilité, bien sûr, pour nos analyses de la prosodie musicale, nous permettant d'appréhender très précisément le rythme et l'accentuation des paroles. Mais en plus de cela, eh bien, nous réunissons toutes les données dans des tableurs, et ce, afin de calculer et de représenter des paramètres spécifiques à la prosodie musicale. Alors j'en ai personnellement retenu trois, qui me semblaient les plus pertinents durant ma thèse et après beaucoup d'exploitation de ces paramètres, à savoir le placement des syllabes accentuées sur la mesure, le degré de synchronisation entre la voix et les instruments, et le débit vocal, bien sûr, mais que nous calculons d'une manière bien particulière. Je vais maintenant analyser ces cinq morceaux à l'aide de ces paramètres, donc je vais vous les présenter un par un. Et nous observerons tout d'abord le placement des syllabes accentuées. Alors, il faut savoir que dans les cinq morceaux de notre corpus, les couplets sont écrits en vers réguliers et correspondent généralement à un groupe de souffles. Autrement dit, ils sont dits en une seule respiration. Bon, parfois deux, ça arrive. Et nous nous intéresserons aujourd'hui au placement des accents toniques de finale de phrase, autrement dit la dernière syllabe de chaque vers, d'accord ? Qui est généralement accentuée. Et nous représentons ces placements par des graphiques. Donc ici, un graphique d'exemple. Les barres bleues désignent les finales de groupes de souffle tombant sur des temps, les barres oranges, celles qui tombent sur des deuxièmes croches de temps, et les barres grises, celles qui tombent dans ce que j'ai nommé l'entretemps, autrement dit, ce qui n'est ni temps, ni deuxième croche de temps. Et si nous observons donc celui de clé de contact, nous voyons bien que seulement une à deux positions sont sollicitées. De même dans la bière, une à deux positions. De même dans fier de ne rien faire, principalement une position. En fait, c'est un trait très récurrent dans le punk français qui fait que les finales de groupe de souffle sont placées principalement à un à deux endroits de la mesure. Par contre, celles-ci diffèrent à chaque morceau. Si un, ça va être sur le premier temps et sur la deuxième croche de temps du premier temps, l'autre, ça va être sur le quatrième temps. Enfin, en tout cas, chaque fois, c'est une à deux positions. De cette manière, ça implique un placement rythmique qui va être identique à chaque groupe de souffle. Et cela, on peut le vérifier grâce à nos partitions des parties rythmiques. Que voici ici un exemple, les premiers vers de Porcherie. On voit bien que les finales de groupe de souffle tombent toutes au même endroit. Par contre, la réalisation rythmique de chaque vers n'est pas forcément la même. Et nous écoutons ceci. Le monde est très vrai, Porcherie, les hommes se comportent comme les morts. La réalisation est très proche, mais n'est pas exactement la même. Nous le remarquons également dans Clé de contact, avec ces finales de groupe de souffle placées toujours au même endroit, mais la réalisation rythmique diffère un peu à chaque fois. Ton corps est un rêve, tu le caches, ça te hait, tu t'attises, t'es fun. Ce placement approximatif, on est d'accord, il met en lumière la volonté d'un amateurisme musical, un aspect « je ne répète jamais à l'identique, mais je m'en moque, c'est voulu ». Ça participe à la construction du style punk. On va s'intéresser maintenant, donc, de plus près à l'attitude globale des premiers punks français face au rythme musical, autrement dit, à ce que j'ai nommé le degré de synchronisation entre la voix et les instruments. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce paramètre, il permet d'observer la proportion de syllabes accentuées et non accentuées, qui tombent ou ne tombent pas sur les temps et les deuxièmes croches de temps. En gros, à la concordance des systèmes linguistiques et musicaux. Alors ce paramètre, il se calcule en pourcentage et il présente plusieurs facettes. 8 au total, mais 4 calculés chaque fois pour les temps et les deuxièmes croches de temps. Je vais clarifier. Ainsi, on va calculer si sur toutes les syllabes, lesquelles tombent sur les temps, lesquelles tombent sur les deuxièmes croches de temps. Ensuite, on va spécifier pour les accents de finale de phrase, lesquels tombent sur les temps, sur la deuxième croche de temps, les accents de finale de mot, ainsi de suite, jusqu'aux accents d'insistance. 4 x 2, 8 facettes qu'on représente à l'aide de graphiques que j'ai nommés des octogones prosodiques. Ici, celui de clé de contact. Et nous avons une forme caractéristique. Chaque branche, 8 au total, représente une de ces facettes de ce paramètre représentée en pourcentage. Et si nous voyons celui de fier de ne rien faire, il diffère complètement. La bière aussi. Les athlètes et la bière sont plutôt proches. Porcherie, différent. Alors là, c'est le porcherie de la version live. Donc on a les interventions parlées, ce qui va un petit peu faire changer ce paramètre ici. Mais il faudrait bien sûr comparer avec la version studio. Bon, si on fait une moyenne de tous ces octogones, on obtient l'octogone prosodique du punk français des débuts. Alors, plus on applique cette méthode à des morceaux, plus l'octogone que nous obtenons est vraiment caractéristique du style. Ce qui peut être très intéressant, selon moi. Bon, on repère globalement que l'espace réservé au graphique est quand même très très peu occupé. Le 100% étant le tour des valeurs. Je ne sais pas si vous les voyez ici, mais le 100% il est ici, d'accord ? Donc la place est quand même très peu occupée. Dans le rap, par exemple, on va avoir beaucoup plus d'occupation de l'espace. En gros, les punks français des débuts, eh bien, sont dans l'idée, veulent assez peu se synchroniser au cadre métrique, rejoignant cette volonté de se placer en dehors, hein, pour exprimer l'aspect « do it yourself », eh bien, très bien, je le fais comme je veux, je le fais en dehors des cadres. Enfin, eh bien, nous observerons le débit vocal. À la différence que le débit vocal, généralement calculé en syllabes par seconde, on va le calculer en nombre de syllabes par beat. Pourquoi ? Ou par temps, si vous préférez. Ça permet de dépasser les différences de tempo entre les morceaux. Ainsi, les valeurs qu'on obtient sont des subdivisions récurrentes du temps et non quelque chose d'assez flexible comme dans la voix parlée. On va donc pallier à ça grâce à ça. On obtient des valeurs. Ici, nous nous rendons compte que les moyennes, c'est 1,112, donc en gros un débit très proche de la noire. Et les tempos sont globalement très rapides, entre 165 et 235 battements par minute. Bon, ces trois paramètres de la prosodie musicale, ils nous renseignent à la fois sur les choix de placements vocaux de chaque artiste, mais aussi sur le style dans sa globalité. Hein. Et si on combine ces nouvelles connaissances à des analyses de la voix seule, eh bien nous pouvons déceler les personnages vocaux mis en scène par les premiers punks français. Alors, qu'est-ce que c'est que ce personnage vocal ? Eh bien, le personnage vocal, c'est la personnalité que construit le chanteur à l'aide de tous les aspects phonatoires de sa voix et de ses choix de placement vocaux, donc, et de la prosodie musicale. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant, et nous allons voir que ces personnages vocaux, ils s'inscrivent en cohérence avec les grandes thématiques littéraires et philosophiques du punk. Je vais vous en présenter deux pour des questions de temps, il y en a bien d'autres, et je tiens à préciser que les adjectifs que je vais utiliser pour les qualifier peuvent être bien sûr discutés. Mon but est ici surtout de montrer en quoi la prosodie musicale et les aspects phonatoires de la voix participent autant que l'instrumentation et les textes à la construction du style. Et tout d'abord, donc, nous avons un punk voulu insolent, qui parvient à exprimer très très bien l'insolence. Et cela se traduit très bien dans le morceau « Fier de ne rien faire » des Olivenstein. Alors, premièrement, par une déformation des voyelles et l'utilisation d'un timbre très nasillard, par exemple sur les mots « poire », « pleine » ou « ture » dans « confiture » et « ce ». Et on va le vérifier immédiatement en écoutant le mot « poire ». Poire, on va écouter pleine.
Pleine.
Plain. On a une déformation des voyelles. On écoute le ture de confiture.
Ture.
Ture. Alors là, on a une totale déformation. Le E. E. On a presque un E ouvert du E. Et on va y arriver. Le se. Ce, avec une ouverture finale. Bon, à ceci se rajoute l'ajout de E caduc en cours et en fin de phrase. Le but est ici de provoquer en se moquant complètement des règles de la prosodie du français. Ainsi, nous le voyons bien dans ces quelques exemples, belle Hélène ne, confiture re, peinte de haine ou déjà peu se démène. Et nous écoutons là encore parce que c'est quand même bien d'entendre.
Voir belle Hélène, les mains confiture, et peinte de haine, déjà peu se démène.
Bon, en plus de cela, ou du moins déjà pour cela, ça permet au punk d'exprimer le peu d'intérêt qu'il porte aux bonnes règles de la prosodie. Hein. Du coup, il provoque par cette simple prononciation. Autre point qui participe à la construction de ce personnage, la suraccentuation des textes et le positionnement approximatif des syllabes sur les temps. Ici, donc, double provocation, à la fois des règles de la prosodie et à la fois eh bien, des règles du chant. Et nous le voyons bien sur cet exemple des Olivenstein encore, où les syllabes « d », « ja » et « ne » sont toutes décalées d'une triple croche vers la droite, qui est volontairement, alors il ne l'a pas réalisé musicalement, mais le but est de se caler complètement après le temps, de manière volontaire. Nous écoutons immédiatement cela. Avec une suraccentuation qui favorise, là encore, une sorte de provocation linguistique et musicale. Bon, cet ensemble de traits phonatoires et de la prosodie musicale permet au chanteur des Olivenstein de construire ce personnage insolent. Nous le retrouvons chez d'autres punks français. Chez Strychnine, par exemple, on retrouve complètement la construction de ce personnage, avec d'autres traits qu'il faudrait analyser également. On va maintenant se pencher sur un personnage que j'ai nommé, et c'est là que ces noms se discutent, Brutal et Bêta, mais ce, de manière auto-dérisoire, bien sûr. C'est donc avec beaucoup d'humour et de recul qu'ils vont construire ce personnage voulu Brutal et Bêta. Et ça se repère très très bien, par exemple, dans le morceau « La bière des garçons bouchés ». Comment ? Eh bien, d'abord, ils vont mettre en scène, vocalement, choisir de finir certaines phrases par des mots familiers qui vont accentuer davantage que lorsqu'il s'agit d'un mot du langage courant. Donc le but est ici de mettre en exergue un punk vulgaire, graveleux, bête, dans le but de montrer qu'il se moque du jugement social. Vu qu'il s'en moque, autant faire en sorte de provoquer un petit peu en le faisant. Et donc sur les mots chiotte, pote et pète que nous allons voir sont particulièrement accentués.
Mais pour les chiottes, pour les potes, et on pète.
Voilà, nous avons une accentuation particulière de ces mots-là. Autre point, ils insèrent également de nombreuses autres voix. Et ça, c'est commun à tous les morceaux de punk, ou à de nombreux morceaux de punk français des débuts, mais particulièrement dans ce morceau. Ainsi, donc, ils vont insérer de nombreuses autres voix qui vont commenter le texte de la voix lead et créer un entremêlement vocal qui évoque symboliquement le pogo, appuyant l'aspect brutal du personnage vocal. Cela donne donc naissance à des prises de paroles entremêlées qui s'auto-commentent avec humour, ne laissant donc plus aucun doute sur le caractère autodérisoire de ce morceau. Nous écoutons quelques extraits de ces entremêlements vocaux. Voilà. Enfin, nous noterons aussi l'utilisation d'une instrumentation bruitée et surtout surprenante. Et là, je pense aux interventions soudaines des cuivres qu'ils vont utiliser comme des sortes de klaxons, donc des interventions très courtes pour appuyer la portée grotesque et autodérisoire du texte et de la voix. De cette manière, en plus une voix saturée et un tempo rapide, ils construisent de manière humoristique un personnage voulu brutal et bêta. Bon, les éléments que je viens de dévoiler, il se retrouve bien sûr dans de nombreux autres morceaux de ce répertoire et ne sont qu'un aperçu des multiples facettes vocales des premiers punks français. J'avais par exemple parlé d'un personnage voulu violent au colloque international de Rouen. Dans ma thèse, j'ai également parlé d'un personnage voulu engagé. Il y en a de nombreux autres à mettre au jour, c'est-à-dire qu'avec 5 morceaux, on ne peut pas qualifier la prosodie musicale du punk français. Mais voyez un petit peu l'idée. Bon. Ainsi, la prosodie musicale est un paramètre qui participe fortement à la construction du style, mais aussi à l'originalité de chaque artiste en son sein. Nous pourrions comparer si, selon les artistes, les lieux et les époques, eh bien, cela se recoupe ou diffère, nous permettant donc d'écrire une histoire inédite du punk français, fondée pour la première fois sur sa pratique vocale et non sur tout le reste. Voilà, et pour finir, eh bien, je tiens à signaler que la collecte d'a cappella, donc des fichiers de voix seule de chaque œuvre, permettrait une automatisation de ma méthode et l'analyse d'un corpus bien plus étendu, ainsi que de paramètres bien plus étendus. Ainsi, j'en appelle aux ingénieurs du son et aux artistes présents dans la salle qui verraient là l'occasion de contribuer fortement à l'écriture d'un patrimoine musical du punk français. Nous avons la méthode, vous avez les ressources. Sources et les données. Voilà. Merci pour votre écoute.